C'est devant le Saint-Sacrement que je vous propose de faire, de vous dire quelques mots, pour le but étant de raviver notre foi et notre amour de l'Eucharistie. Ça va faire donc 10 ans que l'adoration eucharistique perpétuelle a été instaurée dans la paroisse par volonté de la Vierge Marie. On a su entendre l'appel, en tout cas. Mais c'est la Vierge Marie qui l'a voulu. Elle a été mise en place 1 an après la consécration de la paroisse à la Vierge Marie. Voilà. Et je viens d'apprendre que le pape François a décidé que l'année prochaine serait une année de la prière. Donc ça tombe parfaitement bien que nous puissions faire ces 10 ans. Je vous invite à prier pour cette prochaine année, donc. Nous serons invités à être renouvelés dans notre amour de l'Eucharistie, notre amour dans l'adoration eucharistique, dans le désir de l'adoration eucharistique, dans la conscience de l'importance de l'adoration eucharistique pour l'Église, pour la paroisse, pour nous-mêmes personnellement. Je vous invite à prier parce que au bout de 10 ans, eh bien, à la fois on a vu énormément de fruits de l'adoration eucharistique. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une habitude, une routine qui se met en place. Et par exemple, on a de plus en plus de mal à trouver des adorateurs à certains horaires, évidemment la nuit, mais pas uniquement, parfois aussi en journée. On voit que, voilà, alors qu'il me semble qu'il y a plus de paroissiens qu'il y en avait il y a 10 ans, eh bien, c'est plus compliqué. Donc, il va falloir que l'on... Alors, c'est pas un reproche, hein. Je ne reproche à personne d'ailleurs. Mais il va falloir que l'on puisse stimuler, aider à nos frères et sœurs à faire des prises de conscience pour qu'ils découvrent la joie d'adorer et l'importance de l'adoration. Oui, l'Eucharistie qui est présent ici, alors elle est mise dans un bel ostensoir, mais le plus important, vous savez, c'est ce qui a l'apparence du pain, mais qui n'est plus du pain. Donc c'est sans apparence, sans reflet, sans beauté particulière. Eh bien, ce pain eucharistique qui est présence du Seigneur, eh bien, c'est le trésor de l'Église. Et c'est par conséquence notre trésor à nous. C'est le cadeau que Dieu nous a fait alors qu'il partait. Quand il est monté au ciel, dans l'évangile de Matthieu, il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors, bien sûr, quand Jésus a dit cela, il fallait le comprendre aussi par le don de l'Esprit-Saint qui allait nous rendre présent le Seigneur, parce qu'il y a de multiples présences du Seigneur auprès de nous. Hein, Jésus est présent auprès de nous de multiples manières, mais comme dit le Concile Vatican II, que l'on aime à redire souvent, il est présent au plus haut point dans l'Eucharistie. Je vais vous relire, et je vous invite, puisque le Saint-Sacrement est volontairement encore exposé, à regarder Jésus. Je vais relire ce que dit le catéchisme de l'Église catholique sur l'Eucharistie, sur cette présence, la présence eucharistique. La présence du Christ par la puissance de sa parole et de l'Esprit-Saint. C'est au numéro 1373 et suivant. Le Christ Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Romains 8, 34. Est présent de multiples manières à son Église. Il est présent dans sa parole. Il est présent dans la prière de son Église, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis là au milieu d'eux. Il est présent dans les pauvres, dans les malades, dans les prisonniers, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 25. Il est présent dans ses sacrements, dans tous les sacrements, dont il est l'auteur. Il est présent dans le sacrifice de la messe, et en la personne du ministre ordonné. Mais, au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques. Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. Il élève l'Eucharistie au-dessus de tous les sacrements et en fait comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les sacrements, selon les paroles de saint Thomas d'Aquin. Il en fait comme la perfection de la vie spirituelle et la fin, le but à laquelle tendent tous les sacrements. Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement, substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, le Christ tout entier, selon le Concile de Trente. Cette présence est nommée réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle, et que par elle, le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. Le pain n'est qu'une apparence, c'est moi qui commente, le pain n'est qu'une apparence, hein, c'est comme on dit les accidents, l'extérieur, mais en fait la réalité est différente. C'est par la conversion du pain et du vin au corps et au sang du Christ que le Christ devient présent dans ce sacrement. Les pères de l'Église ont fermement affirmé la foi de l'Église en l'efficacité de la parole du Christ et de l'action de l'Esprit-Saint pour opérer cette conversion pendant la prière eucharistique. On invoque l'Esprit-Saint et ensuite on redit les paroles de Jésus et on est sûr que par la puissance de l'Esprit et par la parole de Jésus dite par le ministre ordonné, eh bien, le pain et le vin ne sont plus pain et vin, mais deviennent corps et sang de Jésus. Ainsi, saint Jean Chrysostome déclare « Ce n'est pas l'homme qui fait que les choses offertes deviennent corps et sang du Christ, mais le Christ lui-même qui a été crucifié pour nous. Le prêtre figure le Christ. Il prononce ses paroles. Mais leur efficacité et la grâce sont de Dieu. Ceci est mon corps, dit-il. Cette parole transforme les choses offertes, le pain et le vin. » Et saint Ambroise dit au sujet de cette conversion, « Soyons bien persuadés que ceci n'est pas ce que la nature a formé, mais c'est ce que la bénédiction a consacré et que la force de la bénédiction l'emporte sur celle de la nature. La grâce de Dieu est plus forte que la nature. Elle a la capacité de transformer la nature du pain. Parce que par la bénédiction, la nature elle-même se trouve changée. La parole du Christ qui a pu faire de rien ce qui existait à la création du monde, il n'y avait rien et il a créé l'univers. La parole du Christ qui a pu faire de rien ce qui existait ne pourrait donc changer les choses existantes en ce qu'elle n'est pas encore ? Point d'interrogation. Évidemment que oui. Car ce n'est pas moins de donner aux choses leur nature première que de la leur changer. Le Concile de Trente résume la foi catholique en déclarant « Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vraiment son corps, on a toujours eu dans l'Église cette conviction que déclare le Saint Concile de Trente de nouveau, par la consécration du pain et du vin, s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ, notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église l'a justement et exactement appelé transsubstantiation, changement de substance, transsubstantiation. La présence eucharistique du Christ commence au moment de la consécration, au moment où donc on impose, on invoque l'Esprit Saint, on dit les paroles de Jésus, commence au moment de la consécration et dure, ça c'est toujours le Concile de Trente, hein, donc c'est l'Église, c'est le dogme de l'Église, commence à la consécration et dure aussi longtemps que les espèces eucharistiques subsistent. Le Christ est tout entier présent dans chacune des espèces, est tout entier dans chacune de leurs parties, de sorte que la fraction du pain ne divise pas le Christ. Il est partout de la même manière, et quand on le divise, ben, il est toujours partout présent dans les deux parcelles, sans que ça change rien du tout dans son unité du Christ, mais il est vraiment là, et il est présent tant que les espèces, hein, donc le pain, l'apparence matérielle du pain, subsiste. C'est moi qui fais une petite parenthèse. Quand on communie, au début, le Seigneur est sacramentellement présent en nous, tant que la digestion n'est pas faite. Ça dure pas très longtemps, je sais pas comment, 20 minutes, je sais pas trop, je connais pas. Il y a des médecins qui pourraient le dire. Mais en tout cas, c'est beau de se dire que quand vous communiez, on peut adorer le Seigneur présent en nous, et en retournant à sa place. Et quand on sort de l'Église, souvent, les messes se terminent assez rapidement après, quand on sort de l'Église, on a encore cette présence du Seigneur qui est là, avec nous, qui va petit à petit disparaître avec la disparition du pain qui va être digéré. Mais avec cette mission, c'est que cette présence du Seigneur devienne nous-mêmes, prenne chair en nous. C'est ça le but de l'Eucharistie. Voilà maintenant ce que l'Église dit sur le culte de l'Eucharistie. Dans la liturgie de la messe, nous exprimons notre foi en la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin. Entre autres, en fléchissant les genoux ou en nous inclinant profondément en signe d'adoration du Seigneur. L'Église catholique a rendu et continue à rendre ce culte d'adoration qui est dû au sacrement de l'Eucharistie, non seulement durant la messe, mais aussi en dehors de sa célébration, en conservant avec le plus grand soin les hosties consacrées, en les présentant aux fidèles pour qu'ils les vénèrent avec solennité, en les portant en procession. C'est ce qu'on essaie de faire normalement lors de la fête Dieu, donc dimanche prochain. La sainte réserve, le tabernacle, était d'abord destinée à garder dignement l'Eucharistie pour qu'elle puisse être portée aux malades et aux absents en dehors de la messe. Ça, c'est à l'origine, au début de l'Église. Par l'approfondissement de la foi en la présence réelle du Christ dans son Eucharistie, l'Église a pris conscience du sens de l'adoration silencieuse du Seigneur, présent sous les espèces eucharistiques. C'est pour cela que le tabernacle doit être placé à un endroit particulièrement digne de l'Église. Il doit être construit de telle façon qu'il souligne et manifeste la vérité de la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Il est hautement convenable que le Christ ait voulu rester présent à son Église de cette façon unique dans le sacrement de l'Eucharistie, puisque le Christ allait quitter les siens sous sa forme visible, son corps glorieux, il voulait nous donner sa présence sacramentelle. Il voulait rester auprès de nous de façon physique, tangible. Puisqu'il allait s'offrir sur la croix pour nous sauver, il voulait que nous ayons le mémorial de l'amour dont il nous a aimés jusqu'à la fin. Donc l'Eucharistie présence du Seigneur est présent dans l'ostensoir, est présent le Seigneur, donc dans l'hostie, on l'a dit, hein, corps, âme, humanité, hein, corps, âme, divinité du Seigneur. Mais ce n'est pas un Seigneur qui est mort, c'est un Seigneur crucifié, mais qui est vivant, qui est ressuscité. C'est la différence avec un reliquaire, où on a les restes d'un saint qui est mort et qui attend la résurrection. Il a donné sa vie, mais il attend la résurrection. Là, Jésus est déjà ressuscité, et donc c'est une présence vivante. Ce n'est pas une présence morte. Et ce n'est pas une présence statique. C'est un peu peut-être un des dangers, un des pièges, c'est que nous approchions du Seigneur comme quelqu'un qui ne peut pas bouger parce qu'il est enfermé dans l'hostie, comme dira les saints, la petite Thérèse entre autres. Il est enfermé, il est parfois dans le tabernacle aussi, double enfermement. Mais pourtant, c'est une présence vivante, dynamique, qui veut se donner, qui veut enseigner, qui veut guider. Alors, je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard. Voilà, donc il a donné donc, le Seigneur présent dans l'Eucharistie, hein, dans la Sainte Hostie. Il a offert sa vie sur la croix pour nous sauver. Il voulait que nous ayons le mémorial de l'amour dont il nous a aimés jusqu'à la fin. L'Eucharistie, c'est cela. Jusqu'au don de sa vie. En effet, par sa présence eucharistique, il reste mystérieusement au milieu de nous, comme celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Et il le reste sous les signes qui expriment et communiquent cet amour. L'Eucharistie est fait pour être son premier... le but de l'Eucharistie, c'est pour que nous communions à sa présence, que nous le recevions en nous, que nous le consommions. Donc le Seigneur, non seulement il s'est donné sur la croix, mais dans l'Eucharistie, il continue à se donner concrètement, puisqu'il veut se donner à nous pour que nous le recevions, nous l'accueillions, et que nous le consommions, que nous l'accueillions à travers la communion. Déjà dans le regard, dans l'adoration eucharistique, dans le regard eucharistique, nous pouvons déjà, un peu comme toute proportion gardée, comme un plat, un très bon repas qui nous est offert, et que déjà en le regardant, on commence déjà à se nourrir. Dans l'Eucharistie, c'est ça en plus, beaucoup plus fort. On commence déjà à se nourrir en le regardant et en l'accueillant dans nos vies, par notre prière devant lui, par notre adoration. L'Église, alors c'est toujours le catéchisme de l'Église catholique qui dit ça, l'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde. Une dimension de réparation l'adoration eucharistique. On adore, pas que pour nous, on adore pour ceux qui n'adorent pas, voire ceux qui maltraitent le Seigneur, et ça peut être simplement les bourreaux de ceux qui persécutent les chrétiens, puisque c'est la présence du Seigneur que les chrétiens ont disséminée dans le monde. Pour réparer les fautes et les délits du monde, que cesse jamais notre adoration, que ne cesse jamais notre adoration. Ça, c'est tiré de Saint Jean-Paul II, citation de Saint Jean-Paul II. La présence du véritable corps du Christ et du véritable sang du Christ dans ce sacrement, on ne l'apprend point par les sens. Ça, c'est Saint Thomas d'Aquin qui dit. Évidemment, si on reste très rationnel, très compliqué, l'ostensoir peut aider un petit peu en se disant « ça doit être sans doute important ce qu'il y a dedans, mais c'est quand même compliqué de dire « c'est vraiment Jésus, c'est vraiment Dieu, et en plus il est vivant. » Donc ce ne sont point les sens, dit saint Thomas, mais par la foi seule. laquelle, la foi, s'appuie sur l'autorité de Dieu, de ce que Jésus nous a dit. Ceci est mon corps. C'est pourquoi, commentant le texte de Saint-Luc, ceci est mon corps qui sera livré pour vous, Saint Cyrille d'Alexandrie déclare, ne va pas te demander si c'est vrai. On pourrait dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais accueille plutôt, avec foi, les paroles du Seigneur. Parce que lui, qui est la vérité, il ne ment pas. Il ne ment pas. Voilà donc une citation un peu longue du catéchisme, et je me suis dit, c'est peut-être bien de se redire cela. Notre foi en Eucharistie, voilà ce qu'elle est. Il nous faut méditer ce mystère de la présence réelle. Si nous réalisions la présence, les prêtres mourraient, alors, et les fidèles aussi, d'émotion. Et on est tellement dur de cœur que finalement, ça nous va. Ça ne change pas. Hein, voilà. Mais on peut quand même grandir dans cette conscience de l'Eucharistie, dans cet amour de l'Eucharistie, dans ce désir de l'adorer. Et on voit bien, avec cette notion de la présence réelle du Seigneur, que prier devant le Saint-Sacrement, ce n'est pas tout à fait la même chose que de prier chez soi. Alors, il ne faut pas dire que prier chez soi, ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas juste non plus. Pas juste du tout. Mais c'est vrai que quand on a la possibilité, la chance de prier devant le Saint-Sacrement, eh bien, prenons, saisissons-la, cette chance. Depuis au moins un millénaire dans l'Église, on fait des visites au Saint-Sacrement, ce qu'on appelle des visites au Saint-Sacrement. Au tout début, on n'exposait pas le Saint-Sacrement de cette manière-là, mais dans le tabernacle, on se recueillait à proximité du tabernacle. Alors c'est progressivement, donc tout ça s'est fait au début du deuxième millénaire. Il y a un évêque, en particulier un archevêque à Paris, qui a été le premier à décider que désormais, on élèverait l'hostie à l'adoration des fidèles au moment de la consécration. C'est comme ça que les prêtres élèvent l'hostie, c'est pour adorer le Seigneur dans sa présence. Et ensuite, ça s'est diffusé dans l'Église entière, et maintenant c'est complètement intégré dans la liturgie de l'Église. Cette première adoration qui se poursuit, donc cette adoration qui se poursuit autant qu'on le veut à travers l'adoration eucharistique. Et c'est aussi progressivement que l'adoration eucharistique s'est installée. Il n'y a que 3 siècles à peu près que des confréries ont mis en place l'adoration perpétuelle. Avant, il y avait des 40 heures, et puis il y avait des temps d'adoration assez longs, mais l'adoration perpétuelle a été instituée dans l'Église que depuis à peu près 3 siècles à travers des confréries. Nous nous situons dans cette lignée-là, et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à travers tout cela, en fait, c'est le Seigneur qui, par l'Esprit Saint, enseigne son Église et développe progressivement la compréhension des mystères divins, et en particulier le mystère de l'Eucharistie. L'adoration eucharistique est une richesse de l'Église occidentale. Ça n'existe pas dans l'Église orientale. Ils ont des liturgies qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus déployées, beaucoup plus festives aussi. Mais ils n'ont pas l'adoration eucharistique. Et c'est vraiment une richesse de l'Occident qu'il nous faut garder avec précieusement, parce que l'Eucharistie adorée fait des miracles. Je vous parlais tout à l'heure de la dynamique que la présence du Seigneur, qui peut sembler statique quand on est devant, en fait est dynamique. En fait, la présence du Seigneur veut nous enseigner, veut nous accompagner, veut nous parler, veut nous transformer. Alors on peut faire plusieurs parallèles. On dit qu'on ressemble à ceux que l'on fréquente. Si on fréquente le Seigneur régulièrement dans son Eucharistie, on va ressembler à l'Eucharistie. On va finir par avoir des réflexes communs, alors, se comporter comme le Seigneur dans l'Eucharistie. Après, je vous laisserai méditer là-dessus. Et le Seigneur ainsi va permettre de développer les vertus de Jésus lui-même, par l'Eucharistie, par sa présence. Le Seigneur, c'est une présence dynamique, c'est une présence réelle, c'est une présence vivante. Adorer le Seigneur dans l'Eucharistie, le regarder, le contempler, fixer ce regard comme des amoureux qui se regardent, parce que Jésus nous regarde aussi. J'espère que ça ne fait peur à personne. Jésus, il a un regard d'amour. Si vraiment il y a un regard qui nous console, qui nous rassure, c'est le sien. Mais nous, quand on le regarde aussi, on purifie notre regard. On transforme notre regard. Il vaut mieux regarder... Enfin, c'est très facile de faire le parallèle avec tout ce qu'on peut regarder sur les écrans, sur n'importe où, dans la rue aussi, qui peut salir notre regard, nous abîmer intérieurement, certains ont sans doute fait l'expérience, nous troubler, voire. Là, avec Jésus, c'est l'inverse. Il guérit, il transforme, il purifie notre regard, il nous lave. Il lave notre regard. Et vous vous souvenez que Jésus dit que l'œil est la lumière du corps. C'est par l'œil que rentre, c'est des phrases assez étranges dans l'Évangile, sauf quand on pense à l'Eucharistie, à l'adoration eucharistique. C'est par l'œil que rentre la lumière. Cette lumière divine, eh bien, elle rentre dans notre regard de contemplation. Alors ça ne veut pas dire que pendant l'adoration, il faut à tout prix toujours fixer le Saint-Sacrement. Ça peut être un peu compliqué. Mais c'est d'être conscient quand on est à côté, d'être conscient que quand on est à côté, que le Seigneur nous regarde et qu'on le regarde même intérieurement, même si nos yeux physiques n'arrivent pas à le regarder tout le temps. Le curé Marx aussi, quand il célèbre l'Eucharistie, il prend dans ses mains le Seigneur au moment de la consécration. Il avait cette caractéristique, c'est que le début de la messe était célébré assez vite et pof, il ralentissait le rythme à partir de la consécration. Parce qu'il disait, à partir de ce moment-là, je peux lui dire plein de trucs. Je peux lui confier. Là, on est en tête à tête et je peux lui confier des choses. Dans l'adoration eucharistique, on comprend que c'est la même chose. On va voir Jésus présent sacramentellement, cette présence réelle, unique, non pas encore la seule présence, mais cette présence unique que rien n'égale, et on en profite. On discute, et même s'il semble être surtout dans l'écoute, et pas répondre toujours, on est sûr qu'il nous entend. Il nous entend particulièrement, on a pris ce temps pour lui, comme un rendez-vous d'amour ou d'amitié avec un ami, et là, on se confie. Autant dire que dans l'adoration, c'est une expérience de transformation progressive qui se produit en nous, même si on ne s'en rend pas compte. Et on sait que la sagesse de Dieu veut qu'on ne se rende pas compte. Quand on se rencontre, souvent, après on manque un peu d'humilité et on dégringole de trois marches. Donc c'est toujours bien mieux de ne pas voir l'œuvre de Dieu en nous directement, de ne pas s'en apercevoir et de faire confiance. Mais pour cela, il faut être fidèle, fidèle à cette adoration, fidèle à cet acte de foi. On s'appuie sur la foi de l'Église. Il faut être fidèle à notre engagement. Et cette fidélité, eh bien, porte du fruit, j'allais dire malgré nous. Il faut quand même un effort de notre volonté pour nous convertir, mais le Seigneur, sa grâce est puissante. La présence eucharistique aussi, quand on la rencontre, elle nous renvoie, elle ne nous renferme pas sur nous. Elle ne nous renferme pas sur l'intimité même qu'on a entre Jésus et nous. Elle nous renvoie vers les autres. Jésus, dans son modèle eucharistique, dans ce qu'il nous présente dans l'Eucharistie, dans le don de lui-même, dans l'amour qu'il a, eh bien, nous renvoie à nos frères, en particulier les plus pauvres, les plus en difficulté. Nous serons, si nous entrons vraiment dans la démarche d'adoration eucharistique, nous serons encore plus sensibles à nos frères pauvres parce que nous reconnaîtrons Jésus en eux, comme Jésus nous l'a dit aussi dans l'Évangile. Parce que l'Eucharistie nous renvoie à la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu en faisant l'adoration, c'est une belle chose. Parce que Jésus, quand il était bien vivant, avant sa passion, après sa résurrection, il a enseigné. Il a parlé à ses disciples. Et il nous parle. Quand on lit la parole de Dieu devant le Saint-Sacrement, eh bien Jésus... On peut vraiment y voir Jésus qui nous parle, qui nous enseigne. L'Eucharistie aussi nous envoie annoncer au monde entier que Dieu est vivant, que le Christ est ressuscité, qu'il est le Sauveur, parce que l'Eucharistie est fait pour se donner, et donc il nous invite à transmettre à notre tour, comme les apôtres, comme il le dit dans l'Évangile, allez dans le monde entier, faites des disciples et baptisez-les. Voilà, je m'arrête ici. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, évidemment, hein, mais j'ai choisi quelques petits éléments. J'ai voulu rappeler aussi le fondement de la foi, histoire de que ne soyons pas dans le questionnement ou le flou, hein, mais... Puis je vous renvoie bien sûr au texte du catéchisme catholique, qui est le résumé de notre foi, à partir du numéro 1373. Voilà. Maintenant, je vais faire. Nous allons faire le salut du Saint-Sacrement. Puis ensuite, on aura un petit temps de partage.